Pour la deuxième partie de l'émission, on parle donc de Baise-en-Ville, dont l'intrigue, pour le coup, n'est pas compliquée à résumer, puisque on raconte l'histoire de Corentin, alors rien à voir avec celui que vous venez d'entendre, surnommé Sprite, et incarné par Martin Jova, qui est également le réalisateur de ce film. Corentin, donc, il a 30 ans, il vit encore chez ses parents à Chelles, en Seine-et-Marne, un quotidien rythmé par le Transilien, le RER et le chantier de la ligne de métro 16, toujours à venir, et qu'on voit régulièrement comme la promesse de ce futur qui ne vient pas encore dans le 7-7. Secoué par sa mère qui lui a confisqué la bonde de la baignoire dans laquelle il aime pourtant barboter, Sprite se décide à prouver sa valeur en trouvant du travail. Problème, il n'a pas le permis nécessaire dans le 77 pour pouvoir se déplacer. Problème, il n'a pas d'argent pour payer les leçons de conduite puisqu'il n'a pas de travail. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Avec une monitrice qui est un peu arrangeante, Marie-Charlotte, qui est incarnée par donc Emmanuel Berco, et avec l'aide de son beau-frère, joué par William Lebgill, qui lui trouve un plan un peu foireux, Sprite peut bientôt combiner conduite et taf, puisqu'il suit des leçons le jour et est engagé dans une start-up qui ne travaille que la nuit, mais qui paie cash et immédiatement. Le travail en question, eh bien, à la fin de soirée, passer nettoyer les apparts ou les maisons à la place des propriétaires. Bon, le souci, c'est que pour être engagé, Sprite a dû mentir et prétendre qu'il avait une voiture, et il se retrouve donc à traverser tous les soirs la Seine-et-Marne en transport en commun. Marie-Charlotte l'invite alors à se servir d'un Baise-en-Ville, une petite sacoche en cuir, hyper tendance dans les années 80, ou ranger le minimum vital pour dormir dehors. Et par dormir dehors, entendre coucher à droite à gauche et trouver, grâce à la géolocalisation d'une appli de rencontre, ça c'est l'apport des années 2020, des logements pratiques dans les villes où Sprite nettoie des soirées. Sauf que bon, Sprite n'est pas trop à l'aise avec tout ça, et le plan, sans mauvais jeu de mots, capote assez vite. Voilà, donc on va vous laisser pour la majeure partie de cette émission, en réalité, avec William Lebgill et Martin Jova eux-mêmes, que Aubry et moi on a rencontré au Comédia en décembre dernier. Mais quand même, on avait envie de parler un petit peu du film, parce que, ben oui, il est assez attachant, et on voilà, il n'y a pas rien à en dire. Il n'y a pas rien à en dire. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous qui l'aviez vu à Cannes pour toi, Clarisse, et en reprise de Cannes au printemps, puis en décembre avec moi pour toi, Aubry, Clarisse par exemple.
Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il faisait beaucoup de bien dans la sélection cannoise parce qu'on enchaînait des gros films lourds, pour des bonnes raisons aussi. Et là, on avait cette petite ce petit film coloré, pétillant, qui me parlait énormément parce que voilà, j'échoue au permis de façon répétée. Donc je pouvais me reconnaître dans ce personnage. Et aussi...
Est-ce que tu as un moniteur ou une monitrice aussi douée que Emmanuel Berco?
Non, j'ai des sacrés personnages, mais ils ne sont pas aussi sympathiques en fait que, que Emmanuel Berco. Donc finalement, c'est un genre de film qui me plaît parce que c'est des genres de films où je me dis « Ah, je pourrais faire un film comme ça ». Enfin, c'est un genre de film où je ne sens pas une distance énorme entre moi, spectatrice, et la possibilité de faire des films plus tard. Et du coup, je trouve ça hyper agréable à regarder un petit film comme ça, sans trop de budget, qui marche quand même bien, qui fait rire tout le monde, des vieux aux jeunes. J'étais dans une salle avec beaucoup de vieux. Et qui, voilà, qui tient la route, qui est marrant. Voilà, c'est pas le film de l'année pour autant, et pourtant on passe quand même un bon moment.
C'est très vrai. Aubry, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce film qui est sorti il y a une semaine?
Ben moi, je suis très très emballé par le film, par sa fraîcheur. Non seulement c'est super drôle, il y a pas mal de très bons gags, ça joue beaucoup sur le cringe et assez bien, je trouve, et la distribution est assez chouette, mais en plus je trouve ça vraiment intéressant dans les formes que ça déploie et que ça emploie, dans ce décalage entre le 7-7 bétonné et ultra normé et cette esthétique pop et acidulée à laquelle recourt Martin Jova. Et en plus de ça, c'est aussi vraiment touchant, je trouve, et mignon, même si peut-être un peu plus convenu sur ce terrain-là et pas toujours sans défaut, dans ce que ça raconte, des relations amoureuses notamment. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans le film, en fait, c'est la manière qu'il a, enfin, c'est la tendresse que Martin Jova a en filmant son chez lui, donc son 77. Entre moquerie grinçante et attachement sincère, il se réapproprie les images, les clichés à proprement parler, qui ont constitué et constituent ce petit monde, pour donner à voir son 77 à lui. C'est un espace à la fois purement mental, intime, personnel et mémoriel, mais avec une part irréductible de vérité, de réel, justement parce qu'il est vécu par son réalisateur et ses personnages. Ça me fait beaucoup penser en fait à un film sorti en 2024 qui était Photogénico, qui en soit deux films qui n'ont rien à voir dans leur récit et leur forme. L'un se passe à Chelles, l'autre à Marseille, fait plus opposé. Mais quand on y prête attention, en fait, on a cette même tendresse sincère, intime et vécue qui imprègne et imbibe la représentation, qui parle du réel vécu pour resituer par le fantasque cet espace intime du souvenir au présent. La colorimétrie pop ultra contrastée et acidulée, la musique matinée d'électro qui sature, l'humour absurde et le décalage appliqué au trivial, et ce double ton à la fois très drôle et touchant achèvent de réunir les deux films dans mon esprit. Et enfin, je disais qu'en fait, Bézenville, ça donne lieu à la représentation d'un chez-soi mental, mémorial pour Martin Jova, dans le sens où effectivement il y a un côté un peu factice, un peu presque monde enchanté. En fait, c'est plus que ça justement, c'est qu'il en fait un espace cinématographique à proprement parler. En fait, en utilisant cette colo photo pop acidulée, en faisant un lieu un peu burlesque avec plein de gags, en fait, il en fait vraiment un lieu imaginaire de cinéma. C'est-à-dire que quand le film en fait s'oublie un petit peu, il s'abandonne à ses motifs et à ses à côté, il s'envole vraiment. On voit une autoroute à la lumière spectrale de nuit, un métro qui arrive jamais, une chambre d'ado inchangée qui enchaîne à cet espace matériel et imaginaire, et d'où, dans un formidable dernier plan, on aperçoit en quelque sorte les étoiles mentales de Martin Jova. Et je trouve ça très très beau, cette manière de filmer, on va dire, depuis la tête, mais aussi depuis le cœur, l'endroit dans lequel on a vécu, dans lequel on vit toujours. Surtout quand, en fait, ce dernier, c'est au fond l'expression la plus impersonnelle des espaces de la modernité périurbaine. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Bézenville, et pour toutes les raisons évoquées, je vous le recommande chaudement.
Eh ben, ça s'entend, en tout cas, que tu as aimé, et ça fait plaisir de l'entendre. Oui, moi, t'as assez bien parlé de la forme du film et de ce que ça a d'intéressant. À titre personnel, en plus, je viens pas du tout de la même Seine-et-Marne que Martin Jova, mais c'est quand même un décor qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qu'en dépit de tout l'amour relatif que je porte à ce territoire, j'étais content de voir sur grand écran, et surtout, vous l'entendrez dans la rencontre, mais surtout avec cette ambition du réalisateur d'en faire un territoire de cinéma, à la fois en se réappropriant certains codes. Il y a notamment une villa sur les hauteurs de, je crois que c'est Volpénil, qui devient une villa qui ressemble à Beverly Hills, lieu d'une séquence d'ailleurs assez drôle de soirée macroniste. Le film est très intéressant pour ça. Moi, ce que j'en garde, parce que j'avoue que j'ai pas été emballé non plus à ton niveau, Aubry, je suis plus avec Clarisse sur le côté film très sympathique à regarder, mais peut-être pas non plus bouleversifiant, marquant, c'est que, il a ses petits défauts, notamment dans le jeu en réalité. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le jeu du personnage principal, et pourtant, Dieu sait qu'il est sympathique, il est heureusement entouré d'excellents second rôles, que ce soit Michel Azanavicius qui fait le père, Géraldine Payas qui fait la mère, on a cité Emmanuel Berco et William Lebguil autour de lui, et notamment. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'il dit d'une génération en fait de gens qui ont 30 ans en 2025, donc des gens nés en 95, et qui sont complètement perdus en fait. Et je trouve ça, le cinéma français ces derniers temps, je trouve, fait apparaître pas mal d'images de trentenaires un peu déboussolés, un peu dans le vent, pour reprendre le titre de Laurent dans le vent, qui, je crois, était aussi un trentenaire et quelques. Et moi, ça m'a marqué parce que j'ai vu au Festival Télérama récemment Nino, que tu avais recommandé, Aubry. Et les deux films, Nino et Bézenville, n'ont peut-être a priori rien à voir, mais je les trouve pas si différents l'un et l'autre dans leurs deux personnages principaux, qui sont extrêmement perdu dans un monde qui exige d'eux, tout simplement, sens intransitif, un monde libéral du travail, de la productivité, pour Martin Jova, un monde où tout le monde est occupé à faire quelque chose en vain dans le cas de Nino, et ça m'a vraiment intéressé en fait, voilà, ce côté, ce mal-être de la trentaine qui résonne pas mal avec des films des années 90, en fait, à mon sens. Des films de Desplechin, les films de Bruno Podalides, qui avaient des personnages de trentenaire aussi comme ça, mais qui avaient des préoccupations entièrement différentes et dans lesquelles on sent, en les comparant avec ce film des années 2020, un vrai basculement générationnel qui, bref, moi, m'intéresse et sur lequel je pense qu'il y aurait beaucoup à dire.
Et en même temps, enfin, si je peux ajouter, il est teinté d'optimisme quand même, cette espèce de mal-être, surtout dans Bazenville.
Oui, c'est vrai qu'en fait...
Enfin, je te laisse la parole tout de suite, mais j'ai l'impression que l'espèce de credo du film, de « on fait avec ce qu'on a » et en particulier, en gros, « on fait avec le lieu dans lequel on est », quoi. Même si c'est barbant, en fait, il le prend vraiment du bon côté, entre guillemets, justement parce qu'il est en mode on fait avec ce qu'on a, mais justement, ça invite à une espèce de créativité ou de petite folie, en fait. Quoi.
C'est ce qui rend le film intéressant et qui l'empêche d'être tout à fait Houellebecquien, en fait, globalement, parce que le postulat du film, il est Houellebecquien, il est extension du domaine de la lutte, libéralisation de la vie sexuelle, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même au cœur du film la question du sexe, quand bien même il n'y a pas de scène de sexe dans le film. Et justement, elles sont manquées, elles sont ratées.
Ça va, vu la gueule du film.
Ça va, oui, voilà.
Oui, non.
Et puis, c'est pas. Enfin, on se doute assez vite, en fait, que voilà, c'est ce qui est amusant, c'est de savoir comment ça va rater. Et donc, oui, effectivement, c'est ça aussi l'intérêt du film, c'est que sa petite forme. Pop, bonbon, acidulé, comme vous l'avez dit tous les deux, eh bien, elle empêche le nihilisme, le black pill des héros de Michel Houellebecq, de qui Sprite pourrait être tout à fait proche en réalité. Voilà, et ben sur cette comparaison, Bazenville-Houellebecq, c'est une extension du domaine de la critique qu'on vous propose à présent, en vous laissant en très bonne compagnie au Comédia le 16 décembre 2025.
En fait, ça faisait longtemps que je travaillais sur une idée de film qui s'appelle Bazenville et puis j'étais plutôt en train de finir mon premier métrage qui s'appelait Grand Paris. En même temps, je réfléchissais un peu et puis quand j'ai fini de l'accompagner en salle, je me suis dit bon, maintenant qu'est-ce que ça va être la suite et à ce moment-là, j'étais éligible à un dispositif de résidence qui s'appelle Du Court au Long parce que j'avais fait un court métrage qui était en sélection à Clermont. Et ils lançaient ce dispositif-là de résidence d'écriture une semaine à Clermont-Ferrand. Moi, j'aime beaucoup Clermont-Ferrand. J'aime beaucoup cette ville, tu vois. J'avais envie d'y retourner et je me suis dit, tiens, ça va me mettre le pied à l'étrier. Je commence à réfléchir à ce que je pourrais faire de scénario. J'aurai une tutrice, des rendez-vous, des échanges. Et effectivement, ça m'a beaucoup, beaucoup servi. À l'origine, c'était pour développer un court-métrage que j'ai fait avec William qui s'appelle Le sang de la veine, qu'on a fait en 2020. À l'origine, je voulais un peu le développer en long-métrage et finalement, je me suis beaucoup éloigné de ça. Mais parce qu'il y avait une thématique aussi sur un garçon qui n'était pas forcément à l'aise pour coucher dès le premier rendez-vous dans le cours. Et là, il y avait un peu aussi ce truc dans le long, mais bon, en même temps, les personnages sont différents, il y a tout un... Mais ouais, j'ai fait ça. En fait, moi, j'ai pas fait d'études de cinéma, donc je me disais, tout est bon à prendre, une résidence, des rencontres avec des professionnels, ça pourrait forcément m'apporter des choses, quoi. Il y avait les deux tuteurs, et c'était cool. C'était une dame qui s'appelle Pascal Fort, tu connais ou pas? Elle m'a beaucoup, beaucoup accompagné, tu vois. J'aurais été dans des commissions qui me donnaient des aides au tout début sur des courts-métrages. Et avant, elle était au court-métrage à Canal+. C'est un peu comme une marraine pour moi, quoi. Elle m'a beaucoup soutenue, beaucoup accompagnée. Et ouais, on avait rencontré un peu de chef-op, un peu de prod, un peu pas tellement de scénaristes, bizarrement. Mais je sais pas si j'avais vraiment tellement besoin de rencontrer des scénaristes à ce moment-là. Je crois que j'étais content d'être une semaine à bosser sur ça, à discuter avec ça, avec d'autres gens. Il y avait justement un gars de Lyon, de la Cinéfabrique, qui était là avec moi, qui s'appelle Noah Cohen, qui bossait sur un projet hyper intéressant aussi. Puis tout le monde était... Enfin, on est de la même génération, on a envie de passer au long-métrage. Alors moi, c'était un peu bizarre parce que je venais faire un long-métrage, donc le cours au long, j'avais déjà passé le truc finalement. J'étais un peu un intrus dans le truc quand même. De toute façon, je suis souvent un intrus dans les trucs, moi, à chaque fois. Je devrais pas être exactement là, quoi.
Et pourquoi t'adores Clermont-Ferrand?
Ben, je suis allé au festival, tu sais, pour le sang de la veine, là. Et c'était la première fois qu'un cours que je faisais était pris quelque part. Et toute l'équipe du festival m'a vachement soutenu, on voyait plein d'amour. Et l'année d'après, Grand Paris Express, ils m'ont aussi pris, j'ai surtourné. Et là, j'ai kiffé de ouf, en fait. J'ai kiffé la ville, j'ai kiffé le. J'ai
surtourné plusieurs fois.
Je sais pas si tu le sais, mais je m'étais fait des. Ouais, les infrastructures. Même, je sais pas, j'aime bien l'ambiance, la truffade. Tu connais la truffade, ça te plairait, toi, la truffade?
J'adore, là.
C'est excellent, tu vois. Donc, je kiffais bouffer ça. Et aussi, à un moment, on était. Ils avaient loué un Airbnb, on était dans la soirée, on voit des filles en face, Et à un moment, on commence à se faire des signes. Et en fait, on est parti boire des coups avec les filles. Et je suis resté hyper proche de l'une d'elles. Et on se voit à chaque fois que je vais à Clermont. Et elle m'a invité l'an dernier à faire un petit tournage pour un court-métrage étudiant qu'elle faisait. J'y suis allé et tout, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Je kiffe Clermont-Ferrand. Ouais. C'est assez stylé, hein, cette ville. Mais ouais, mais même, je dirais maintenant où c'est produit, qu'il y a une boîte de production, on aime bien bricoler, trouver des solutions. Moi, je crois que je suis un peu radin, donc à chaque fois, je dis quoi, mais ça coûte trop cher, ça sert à rien, et je trouve une autre solution. Ouais, je pense, bah, tu sais, d'avoir fait des films avec mon argent perso pendant longtemps, j'ai vachement conscience des valeurs, des trucs, tu sais.
C'est pas radin,
Non, mais je suis pas radin, j'aime bien payer des tournages à mes potes et tout, mais sur un tournage, tu vois, genre, je suis quoi, genre, on va payer 10 000 balles pour ça, mais non, bah alors je m'en fous, on tourne ailleurs, ouais. J'ai des réflexes comme ça, tu vois. Par exemple, dans le film, il y a Face à la mer, un moment, le morceau, et moi, je voulais le retirer, je me dis, on va pas payer 10 000 balles pour une blague de 8 secondes qui est même pas marrante. Et c'est carrément mon producteur qui me disait, mais si, ça vaut le coup, c'est rigolo, tu vois. Donc des fois, ils doivent lutter contre moi, tellement j'ai des réflexes d'autoproduction, de chaque centime compte et machin. Alors que là, le budget, du coup, tu vois. Mais moi, je fais attention même au salaire des gens et tout, tu vois.
Plus de prod.
Ouais, en fait, ouais, en vrai, ouais. Genre, je sais que dans mon équipe, je sais combien est payé tout le monde, je sais combien tous les trucs. Des fois, je suis en mode, quoi? Lui, il est payé aussi peu et lui, autant, c'est grave injuste et tout. Et je rééquipe. Bon, en fait, tu peux pas payer moins quelqu'un, mais du coup, je remonte l'autre et machin, tout, tu vois. Genre. Ou alors, je dis, bah non, mais du coup, lui, il vient moins de jours pour que ça. Enfin, ouais. J'ai fait ça sur le tournage, je devrais pas vous dire ça en vrai. Ouais.
Sur ça, c'est pour quel personnage?
J'ai... Non, pas pour les acteurs, pour des postes. Ouais, bah, non, ouais, et puis après, j'ai aussi un producteur qui nous fait une confiance énorme, ouais. On l'a vu deux fois sur le tournage, quoi.
Okay.
Et au montage, il est venu au bout de 17 semaines de montage. Avant ça, il nous a jamais rien. En général, les producteurs sont plus intrusifs. Ils vont venir, ah, regardez un peu, ok, t'es sûr, attends, mais cette séquence. Non, là, on lui a dit, le film, c'est ça, il est venu, il a fait, ok, cool. Alors, trop bien, on a passé genre 3 jours ensemble à retoucher des petits, mais des détails. Il me faisait confiance, en fait, il m'a toujours fait confiance. Oui, c'est vrai que j'avais conscience que le titre était assez provocateur et pouvait sembler programmatique d'un truc un peu style serial noceur, on va pécho des meufs pour pouvoir bosser, enfin tout ça. Et en fait, c'est des schémas qui sont tellement éloignés de ce que je pense, moi, des relations amoureuses, des relations entre les garçons et les filles, et qui me semblent être ouais, tellement une injonction à consommer le sexe absolument et qui crée beaucoup, je trouve, de souffrances, de situations inconfortables, de violences. Beaucoup plus pour les filles, bien sûr, mais même moi, dans ma virilité, tu vois, d'être dans un truc où je me disais, putain, mais en fait, j'ai pas envie de coucher forcément, mais est-ce que j'ai un problème, est-ce que je suis un vrai mec, des trucs comme ça. J'avais envie d'aborder ces questions-là, et c'est vrai que quand j'ai découvert le concept, enfin l'objet plutôt baisant lui, je me suis dit, tiens, c'est tellement représentatif d'une époque où il y avait vraiment un truc, on baisse, quoi, enfin voilà, quoi, c'est simple, quoi, alors qu'en vrai, pour moi, c'est pas si simple que ça. Et je trouvais qu'il y avait plein de blagues à faire dessus, mais aussi quelque chose à raconter de comment sont nos relations aujourd'hui, et choses plus nuancées et plus sensibles aussi.
Thank you.
vraiment, on a fait 4 ou 5 tournages ensemble, je pense. Donc c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps sur le plateau, en dehors aussi, bien sûr. Mais du coup, l'équipe et toi, vous connaissez bien. Il y a un truc de retrouvailles à chaque fois. C'est sûr que c'est détendu, mais on fait des bonnes journées.
Ouais,
et,
ouais.
Et quand on... Enfin, on cherche un truc de précision, vachement. Donc ça demande de la concentration. On n'est pas en train de se marrer tout le temps. On la refait. On n'est pas comme ça, quoi.
Pas d'improvisation.
Non, pas vraiment, c'est peut-être sur des ajouts de mots, mais c'est vraiment tout petit, quoi. Le texte est vraiment, en plus, Martin, il a une qualité de dialoguiste qui est vraiment excellente. Parce que, du coup, quand vous êtes en étant acteur, il y a vraiment une espèce de vrai plaisir, quand même, de dire son texte, quoi. Parce qu'il est marrant, il est bien rythmé, il est bien ponctué, donc c'est vraiment, c'est hyper agréable, quoi. Et au moment où ça commence à, comme diraient les Américains, groover, et bah...
Qui dit ça?
Ouais, il dit ça.
À une longueur de choses.
Ah, ils n'arrêtent pas de dire groover,
mec. Chier, quoi.
Écoute. Et là, j'ai fini ma phrase.
Ouais, mais attends, du coup,
au moment où
ça
groove,
ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Au moment où ça groove.
Et au moment où ça groove, on se dit, ça retec Martin.
Je suis content que tu aies fini cette phrase. Non, c'est vrai que c'est ce que je préfère écrire, moi, les dialogues. Et vu qu'on se connaît bien, j'essaie d'écrire un truc qui irait bien dans ta bouche, qui sonnerait bien, qui sonnerait naturel, quoi. Sonnerait naturel.
Ouais, le gars.
Sonnerait naturel, qui sonnerait sur mesure un peu.
Ouais, sûr.
J'essaie de faire ça, et parfois j'y arrive bien, et parfois j'y arrive pas tout à fait. Alors là, il y a une certaine liberté de changer un mot, par exemple, sur lequel t'accrocherais, qui serait pas fluide. Et j'essaie de donner l'impression que c'est hyper naturel, spontané, quoi. Et donc j'essaie de copier sa façon de parler un peu.
Mais... Quel bâtard.
Non, je sais pas, tu vois, j'essaye un peu pour chaque.
Genre tu m'imites.
J'essaye, tu sais, quand je suis chez moi, j'ai. Tu vois, je... Non mais tu vois par exemple le truc de qu'est-ce que j'aime. Moi j'adore, c'est ça la vie d'adulte, un long cauchemar dont la seule issue est la mort, tu vois.
Ouais,
et bah je t'imaginais grave dire ça, tu vois, je te voyais tout. Et je me mettais à ta place, et je pense même que j'aurais pas eu l'idée de la réplique si je m'étais pas mis à ta place en fait. Tu vois. Donc ça me guide vachement. Lui, ouais, ceux que je connaissais déjà, ouais, donc je vais vous dire ceux que je connaissais pas. C'était Emmanuel Berco, pour le coup, je la connaissais pas, on se connaissait pas. Et j'ai réécrit quand j'ai su que ça allait être elle, j'ai un tout petit peu adapté. Et en même temps, elle est quand même, pour le coup, c'est plus un rôle de composition. Elle est vraiment allée dans le truc, elle a vraiment bossé pour capter l'atmosphère, le rythme, le ton et tout. Alors nous, c'était un poil plus un truc dans lequel on était déjà vachement à l'aise, ouais. Mais. Ouais, Géraldine Pellas, pareil, je la connaissais pas. Enfin, je veux dire, je les connais, mais pas personnellement. Et Michel Hazanavicius, je pensais à lui en écrivant parce qu'on s'était déjà croisés quelques fois. En fait, suite à la sortie de mon film Grand Paris, il m'avait envoyé un message super sympa, il m'avait proposé de boire des cafés. Et en fait, on se voyait régulièrement. J'étais en train d'écrire le truc, je me disais, putain, le daron, il serait bien avec sa petite classe, son truc. Je me disais, nous deux, enfin, vu que lui, il est plus beau gosse, plus costaud, plus assuré, je me disais, ça créerait un truc marrant, un contraste entre nous deux sur le truc générationnel. Et donc, je lui ai proposé assez rapidement aussi. C'est surtout Emmanuel Berco et Géraldine Pellas qui sont sortis un peu comme ça. Emmanuel Berco, j'ai dû faire peut-être une heure de répète.
Ah ouais.
Je crois que quand t'as essayé les costumes, on a parlé vite fait du truc, mais bon, c'est tellement...
On a lu, quoi.
Ouais, on a lu ensemble, ouais.
Okay,
moi, je fais pas trop de répètes, je sais pas pourquoi. Je me dis, de toute façon, la vérité du tournage, c'est la seule chose qui compte. Et on peut répéter 10 jours, et si sur le tournage, ça se passe mal, ça se passe... Enfin, je sais pas... Et puis même, après, je trouve ça... Du coup, on perd de la frais. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi. Tu dois faire des projets où il y a beaucoup de répètes. Moi, je pense que ça m'ennuierait de faire plein de fois le même truc. Après, t'as vu, tu refais le même truc.
Mais j'ai l'impression que si on veut faire des répètes pour... Pour un film, il faut en faire justement genre 6 mois à l'avance, quoi.
Ouais.
Et en faire vraiment énormément.
Ouais, c'est ça.
Pour que ça ait du sens.
C'est un peu chaud.
Sinon, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des petites répètes. Et ouais, justement, c'est ce que tu dis, ça blow.
Oh, il y a sa groove, ça.
Ride my boy. Mais quand c'est un peu entre deux et tout ça, c'est pas, ça manque de... Du coup, on arrive sur le plateau avec une idée déjà de la scène et pas de...
Mais en fait, c'est pas exactement ça, en vrai.
Et ouais, c'est ça, c'est un peu...
C'est la transition énergétique. Ouais, du coup, non, pas trop de répètes. La direction de l'acteur, finalement, c'était quand même assez évident pour beaucoup de personnages. Et c'est justement les nouvelles venues où il a fallu qu'on bosse plus et qu'on trouve le truc ensemble avec Emmanuel au début. C'était pas du tout évident, quoi. On a fait des prises, on a essayé, il fallait que je trouve les bons éléments de langage. En fait, chaque comédien, chaque comédienne est réceptive à différentes métaphores ou façons. Enfin, tu vois, il y a tout un truc, c'est hyper humain, enfin, c'est hyper subtil parce que si tu dis un truc, je sais pas, trop agressif, parfois quelqu'un va être brusqué, ça va lui faire perdre totalement sa concentration. Ou à l'inverse, ça va le mettre dans l'autre. Enfin, moi, je dis jamais de truc agressif en vrai, c'est un hyper mauvais exemple. Mais je me souviens qu'une fois sur le tournage de Grand Paris, j'avais répété en imitant Chassagne pour Trafic, c'était censé par Jean Kiki, et il m'en reparle encore, tu vois, c'était il y a 5 ans. Donc c'est un truc, mais après, moi.
Ça l'avait troublé, quoi.
Ça l'avait troublé parce que je lui ai fait répéter 50 fois cette partie mon kiki, donc déjà la scène était lunaire. Et à un moment, je fais, mais non, mais arrête de faire, c'est parti mon kiki. Et j'avais trop. Donc pour ça, je le fais pas, tu vois. C'est le max d'agressivité que je peux faire.
Beaucoup de prises ou pas?
Non, pas trop. 3-4. Parfois sur des trucs précis. Parfois, en fait, c'est plus sur des problèmes à l'image qu'on fait des prises que sur le jeu. Sur le jeu, en général, on est direct dans le truc. Et parfois, il y a une réplique qui est vraiment importante pour moi. Par exemple, un long cauchemar dans la Cielici Noire, je voulais que ça soit vraiment d'une traite avec ce rythme, ces intonations-là. Et peut-être là, je pense que tu y es arrivé rapidement, mais là, j'aurais pu faire peut-être 6-7 prises, ou alors laisser une prise où on répète cette phrase pas mal de fois, parce que celle-là, j'étais absolument sûr que ce soit comme ça. Le reste, je m'en fous, le truc de « Ah ouais, non, je suis rentré tout à l'heure. » Enfin, tu sais, des phrases un petit peu plus passe-partout. J'ai pas d'attention, je veux juste qu'elle soit naturelle et spontanée, mais il y a des phrases qui sont beaucoup plus cruciales dans un dialogue, et celle-là, il faut qu'elle soit exactement incarnée de cette façon-là. Et du coup, c'est là-dessus, je suis vraiment très méticuleux. Sinon, je sais que ça sert à rien, ça sera pas drôle, je le couperai. Tu vois, c'est con, mais je pense que le plan où on a fait le plus de prises dans le film, c'est quand les deux monitrices d'auto-école s'engueulent et qu'elle lui fait sac à dos. Et je pense elle a fait 40 fois le truc. Parce qu'elle disait sac à dos, et je me disais, bah non, ça sert à rien, ça sera pas drôle. Tu vois. Si tu lui dis juste sac à dos, c'est pas drôle, faut que tu fasses sac à dos. Je disais sac à dos, je disais, non, faut que sa pose soit plus longue. Et vous avez répété. Fait énormément de prises de ça, tu vois. Parce que je savais que le gag, il reposait là-dessus. Comme ça, c'est la dernière phrase du dialogue, un long cochon dans celui-ci, il est mort. S'il le dit pas bien, t'es dans. T'es comme ça, t'es en carafe, t'arrives pas à couper ta scène, celle d'après, du coup, elle recommence mal, t'es obligé de couper, mais du coup, voilà. Et on a bossé avec Emmanuel, surtout le premier jour, on était juste tous les deux. Enfin, non, en fait, les trois premiers jours, c'était William et moi. Et moi, je voulais commencer par ça parce que vu que j'avais un gros rôle et que je savais qu'avec lui, je serais en confiance et que ça glisserait. Et on a envoyé des grosses séquences de texte d'entrée. Tu vois, la première scène qu'on a tournée, c'est quand j'arrive, je fais « Ouais, t'aurais pas un plan, nanana, un plan derrière les fagots. » Et le dialogue, il est hyper long, quoi. C'était genre 4 ou 5 pages de dialogue, direct. Et en fait, on a trouvé immédiatement notre dynamique dans notre relation. Moi, ma façon d'être un peu un gamin, mais en même temps de lui mettre la pression. On avait directement les deux personnages. Moi, après ça, je me suis plus jamais posé de questions de tout le tournage, tu vois. Les 2-3 premiers jours, ils étaient pas. Parce que je le connais bien, c'est mon ami, on a fait plein de trucs ensemble. Je savais que j'allais mettre zéro stress, j'allais pas me dire comment je vais faire. Tu vois, si j'avais commencé avec Emmanuel, j'aurais été en mode, c'est quand même Emmanuel Berco, ok, est-ce qu'elle a le personnage? Ah non, mais est-ce que moi j'ai le personnage, tu vois, genre. Et du coup, non, je suis arrivé, on a fait. Bizarrement, on a commencé un jeudi, jeudi. On fait jeudi, vendredi, nous deux. Toi, t'es parti. Lundi, je recommence avec Emmanuel, mais moi j'étais sûr de moi, j'ai pu me concentrer sur elle. Et il a fallu bosser, pas mal. Au début, c'était ah non, c'est pas exactement ça. Ah non. On a fait pas mal de prises, on a trouvé le truc, elle l'a chopé fin de matinée. J'étais soulagé, je me suis dit bon là, je me poserai plus la question. Et après, derrière, tout le tournage, elle était dedans, elle savait exactement se mettre dans le truc. Une fois, moi je sais pas comment tu bosses, toi, je sais pas comment tu le ressens, mais moi comme comédien, je suis pas comédien, tu vois, j'ai joué dans mes films, dans 2-3 petits commentaires. Mais une fois que tu trouves le personnage, t'arrives à. Comme un peu Clark Kent, t'arrives à te mettre d'un coup dans le costume, tu vois. Mais tant que tu l'as pas trouvé, c'est. Ouais. Tu vois, c'est un peu. C'est pas trop, tu testes, t'as l'impression d'être dans le noir et d'essayer de choper des trucs. Mais une fois que tu l'as trouvé, c'est immédiat, quoi. Tu peux d'un coup
se pencher. Ça dépend du registre aussi dans lequel tu joues et tout. Mais,
c'est sûr, ouais.
Mais oui, c'est sûr. Je t'en ai mis partout alors.
Merde.
Il bave.
Le vrai truc, c'est juste le plaisir que je prends à faire. C'est que ça m'amuse de fou. Je suis avec lui, on envoie des dialogues que je trouve marrants. On rigole, on a le bon time. Je suis passionné par ce truc-là. Qu'est-ce qui fait que c'est marrant ou pas marrant? C'est tellement subtil, c'est tellement des minuscules détails. Je trouve ça mais fascinant. Tu t'ennuies jamais, quoi.
Chassagne.
Ouais, c'était trop bien ça. Ouais. Mais tu vois cette scène, ça m'a tué parce que quand on attend cette scène, quand on l'a joué, je me disais ah ok c'est pas mal, mais peut-être je m'attendais à un truc encore mieux. Je suis arrivé au montage, je me suis dit ok en fait non c'est génial. Et j'avais un moins bon ressenti sur le tournage que sur le. Je préférais la scène dans le bureau qu'on attend en premier. Alors qu'au final, les deux sont bien, mais peut-être celle-là encore mieux, tu vois. En plus, on laisse des prises, on est bon dans la durée. Tout,
ouais,
tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Enfin, Enfin, moi, je trouve ça. Non, le truc de jouer, c'est juste que je prends énormément de plaisir, que le personnage me correspond. Au début, je l'ai fait, c'était une contrainte presque technique, parce que je n'avais pas forcément d'idée d'acteur de ma génération que je trouve intéressant. Et même maintenant, tu vois, je me dis de ma génération, tu vois. Je suis un peu en mode, bah, qui jouerait ça, tu vois? Genre, je me posais les questions à l'époque.
Est-ce qu'il y a un style particulier?
Ouais. Et sur le film, donc sur Grand Paris, on n'avait pas de thune, on n'avait pas d'autorisation de tournage, c'était vraiment très pirate, donc moins on était, mieux c'était. Et donc, normalement, je me suis dit, bah, si je joue et que je réalise en même temps, ça fait une place de moins dans la bagnole, c'est-à-dire une bagnole de moins parce qu'on était juste une place sur une des bagnoles, et en même temps, on sera moins nombreux, et en même temps, j'ai envie de le faire, en fait, juste j'en rêve, tu vois, j'en rêve, et j'ai pas fait de formation de comédien, si je passe un casting, je l'aurai jamais, personne ne me connaît, je jouerai jamais dans aucun autre film. Donc, si je joue pas dans mon film à moi, c'est mort, en fait, tu vois. Non, mais c'est vrai, donc je l'ai fait comme
T'as
ça. Et
trop
après,
raison,
j'ai
oui.
kiffé de ouf, et j'ai kiffé, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, parce que. Bon, je joue toujours pas dans d'autres films, mais peut-être qu'un jour j'aurai dans d'autres films. J'ai joué dans un film, là, un long métrage, j'avais 2 jours et j'ai trop kiffé. Bah, tu sais, c'est ton anniversaire après. Et j'ai trop kiffé, c'est génial. T'es sur le tournage de quelqu'un que t'admires, tu kiffes le film, enfin, je sais pas, c'est trop cool. Non, j'adore, j'adore. Voilà, c'est pour ça. C'est pas d'avoir la main mise sur le truc. Mais effectivement, je me sens plus proche d'eux parce qu'on partage le truc. Déjà, on est dans la même galère. S'il fait froid, on a froid ensemble. Si machin, c'est... tu vois, on est dans le même truc. Et je suis pas assis au chaud et pouvoir dire non, on refait là comme ça sans avoir aucune idée du ressenti de ce qui est en train de se passer. Et aussi, c'est plus fluide. On est à côté, on partage le truc. Dès que c'est coupé, on parle entre nous deux. Et il y a personne d'autre qui va me dire attends, non, 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 je fais non, c'est entre nous quoi.
Bah, c'était plus dans cette idée, effectivement, enfin, genre de participer vraiment au truc un peu à
Mais c'est
plus.
ça, en fait. C'est comme si sinon c'est mon anniv, mais je dois être dans une autre pièce, tu vois. Genre ils s'amusent sans moi un peu. Je dis non, en vrai la fête
Et
c'est de venir jouer
tu
le
dis
film.
aux gens comment s'amuser.
Ouais, c'est ça. Et moi je regarde à la télé en plus sur un petit truc comme ça. Je peux pas imaginer faire un film ailleurs que HL ou autour de la Seine-et-Marne. C'est la seule chose que je connais, c'est le seul endroit que je connais vraiment. Il m'inspire, je le trouve beau. Je trouve plein de charme et je trouve qu'il a un potentiel qu'on peut tourner dans différents registres, différents genres de cinéma qui me passionnent. Je trouve ça trop marrant de ramener des histoires qui ont a priori rien à voir là, de faire venir des personnages dans des décors qu'on ne voit pas au cinéma. Et je me dis, si moi je le filme pas, personne d'autre le fera. Et c'est bien de représenter des gens aussi dont on se fout, quoi. Tu vois le 7-7, tu te dis, ouais, à part deux, trois mêmes, genre on vient à cheval à Paris, tu vois, le 7-7, c'est. Et je sais pas, moi je suis assez fier de cette région, je l'aime et donc j'ai envie de la
la
mettre en
mettre
valeur.
En valeur ouais.
Et
puis d'en faire, enfin ouais, avec Grand Paris, d'en faire un genre
ouais. un terrain de jeu, ouais.
Pour un film d'aventure, c'est trop stylé.
Ouais,
quoi.
C'est génial.
Quand t'es né dans le 7-7, plutôt c'est pas après Shell, c'est plus.
Ouais, mais
grand,
plutôt
quoi,
vers chez toi ou vers chez toi, tu vois.
Mais où c'est un peu plus rural, entre guillemets, quoi. Et que tu. T'as passé du temps vraiment à t'ennuyer quoi, et à attendre des bus et vraiment à galérer quoi. D'en faire un terrain de jeu pour une sorte d'Indiana Jones de jeunes, c'est vraiment trop cool quoi.
Ouais,
et même
c'est génial,
tu vois là dans Bézanville, c'est de rendre ça coloré, ultra fun. Enfin, moi franchement, je rêvais que quelqu'un fasse ça.
Ça pour le coup, le soleil, c'est lui qui nous a fait le cadeau. Vous pouvez pas contrôler le soleil.
C'est énorme, c'est quand même... J'étais même
oui.
surpris du beau temps après.
Bah non, mais ça, tu sais qu'en plus, l'été était horrible et du coup, c'est là où je deviens vraiment très chiant. C'est que je dis, on tourne pas tant qu'il n'y a pas de soleil, tu vois. Non, mais c'est vrai, hein. Et je fais ça tout le temps et du coup, je suis en train de me battre tout le temps avec la météo. Et c'est assez dur parce que dès qu'il y a une ouverture, il faut être bon direct. Et moi, ça met dans un état de tension quand même, parce que je sais que ça va avoir un impact hyper fort sur l'image et sur toute l'atmosphère du film. Et tout le monde dit, mais non, c'est pas grave, on verra l'étalo. Je dis, non, les gars, on verra pas l'étalo, il n'y a pas d'étalo. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil. Souvent, les gens qui disent ça, ils vont pas en étalo. Ils disent, t'inquiète, tu verras un post-prod, non. Et moi, je milite pour que les postes des tournages, ils aillent plus en post-prod, parce que souvent, ils disent, mais non, mais ça, tu fais au montage, fais un truc, t'arrives au montage, je fais, bah non, c'est mort, mais qui t'a dit ça? Bah, quelqu'un qui est jamais allé en post-prod, donc tu vois. Faut que ça communique dans les deux sens. C'est pareil, on pose problème. Mais pourquoi ils ont fait ça? Je fais, viens sur le tournage, te voir pourquoi on a fait ça. Il y avait l'avion qui passait, il y avait. Tu vois, c'est trop imperméable entre les deux sphères.
Ouais.
Bon, bref. Je pense que les journalistes aussi devraient aller sur les tournages.
Mais ça arrive. Hein.
Tout le monde devrait aller sur les tournages en fait. Les enfants à l'école, en CE1, à la sortie scolaire, on va sur le tournage.
Ça donne une esthétique au film.
Pas
ouais, c'est sûr, ça, j'avais conscience, je voulais que le film ressemble à un paquet de bonbons.
Voilà, ok.
Mais il n'y a pas de signification autre que je voulais créer cette atmosphère-là, je voulais créer cette légèreté, ce côté pop,
okay.
cette
voilà.
couleur. Okay. C'est con, hein, c'est vraiment la vie en rose. D'imaginer, bon, la vie, elle n'est pas si intéressante, pas si mouvementée, un peu triste même, mais on la voit en rose le temps du film. J'essaie de créer ce truc-là d'optimisme, quoi. Ah, c'est délibéré. Ouais, ce serait. Non, ce serait vraiment une coïncidence répétée à chaque fois, vraiment dingue, quoi. Qu'il y ait tout. Putain, mais il y a plein de couleurs, c'est quoi ce bordel là.
Non. Je sais pas, on appuie sur un bouton à chaque fois, on sait pas si c'est lequel.
Non, les costumes, les accessoires, la déco, je dis à tout le monde de mettre énormément de couleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'en ai conscience. Je l'avais déjà fait dans mes premiers films, mais là, j'avais plus de temps, plus de moyens, plus de personnes qui pouvaient interagir sur la réalité, parce que c'est ça. Et du coup, j'en mets beaucoup, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Il y a un mix, déjà, par rapport à ma famille. J'ai beaucoup de familles, du coup, je vous ai dit, et j'ai beaucoup de cousins aux alentours, et donc je connais leur ville par rapport à ça, et j'ai passé beaucoup de moments géniaux dans mon enfance, dans mon adolescence, en allant les visiter, en faisant des trucs, notamment Pomponne, Torigny, Lagny, Torcy, Clessouilly, toutes ces villes-là, en fait. Ça, c'est long, hein, ça, pour le coup. Mais moi, j'ai des cousins à l'Isle-Adam aussi, vers Cergy, j'ai des cousins là-bas. J'ai un autre cousin aussi qui a déménagé à
Cergy.
C'est 9-5, ouais, c'est bon, toi. Ouais. Donc, il y a ça. Après, je cherchais des décors aux alentours de Chelles, et j'ai découvert des choses aussi. Tu vois, en cherchant, en disant... Logne, voilà, Logne, beaucoup Logne, j'adore Logne. J'adore Logne.
Je connaissais pas le deuxième
Trilbardou. Ça, justement, je cherchais un truc plus loin qui était galère et qui était sur la Marne. Je voulais qu'il y ait ça, je voulais qu'il y ait la guinguette du bord de Marne. Et j'ai découvert Trilbardou. Tu vois, c'est ça, c'est aussi mes pérégrinations, mes leçons de conduite que j'ai faites. J'ai découvert des endroits en me baladant pour apprendre à faire un rond-point. Je me suis dit, ah, tiens, il est marrant ce truc. Je demandais à mon moniteur de prendre des photos, tu vois, après me les envoyer. Ou plein de trucs, j'ai fait des tafs d'intérim, j'ai découvert toute la Seine-et-Marne, enfin, tout ce coin-là de la Seine-et-Marne, en tout cas, comme ça. Et c'est vrai qu'il m'inspire, je le trouve beau. Toujours, je prenais des photos, des fois, je mettais sur Instagram, des trucs comme ça. Et en fait, je faisais mes repérages sans le savoir, déjà. Depuis des années, en fait. Et quand j'écris, je me dis, ah, mais cet endroit, il est génial. Le rond-point avec les pyramides, la Champs-sur-Marne, j'ai trop envie de le filmer. Enfin, c'est des choses comme ça, tu vois. Oui, tu vois. Et par exemple, je sais pas, je faisais du foot à Logne. Bah, quand on est à Logne, on passait par le rond-point des pyramides. Après, on allait vers l'aérodrome, bah, j'ai filmé les deux. Enfin, c'est comme ça, en fait. C'est ma vie, quoi. Et en fait, bah, c'est rarement dans des films, quoi. Donc je me dis, et puis moi je les adore, ils m'inspirent. Quand j'ai des idées de situations, d'échanges, de personnages, même dialogues, souvent ils s'incarnent dans des paysages de ce coin-là, quoi. C'est presque, c'est lié. Et à l'inverse, parfois j'ai des idées abstraites et je me dis, oh, mais ce décor il est génial. Ah bah je pourrais faire se passer la scène des arrêts de bus devant les pyramides. À la base ça devait être dans un train. Je me dis, ah, ça va être chiant, on est dans le train, un dialogue long comme ça et tout. Le train, je vais essayer de faire des trucs sans dialogue parce que sinon j'ai trop galéré avec le son, les raccords, les contrôleurs, machin. Tu vois, je me réfléchis comme ça. Je me dis, mais ce rond-point avec les pyramides, il faut absolument que je le filme. Bah voilà, on fait cette scène-là, tu vois. C'est comme ça. Ça aide de garder de la souplesse aussi là-dessus. Mais il y a vraiment l'idée de montrer ce territoire, en tout cas, c'est sûr. Et de le montrer et en même temps de le transformer un peu, de l'idéaliser. Parce que il y a aussi, moi, là, j'ai déménagé de Chelles depuis un an ou deux. Il y a aussi ce truc un peu nostalgique, un peu de vision fantasmée de cette ville qui en fait change et qui, moi je trouve, s'enlaidit un peu, beaucoup de construction, une espèce de perte de charme, mais qui est peut-être concomitante aussi de moi qui rentre dans l'âge adulte et où je perds un peu ce regard enchanté sur le truc et je vois tous les défauts des gens qui les grandissent.
Ça vieillit mal, ces banlieues d'histoire en fait.
Mais ils reconstruisent des trucs tellement moches, je trouve. Peut-être, ouais. Mais quand ils gardent les anciennes constructions, c'est trop beau. Hein. Les trucs des années 60-70, c'est tellement beau.
Ouais,
et il y avait plein de petites couleurs, du turquoise, des petits trucs comme ça. Maintenant, tout est gris, tout est
crépi.
Crépi, ouais. Ouais, c'est cool ça, parce que des fois, j'avais peur que ça puisse être excluant aussi pour les gens qui connaissent pas du tout le coin. Mais en même temps, je sais pas, ça fait une espèce de... Pas de mythologie ou de guide touristique où tu dis, bah, des fois, tu vois des films aux States, je sais pas, ils sont à Austin. Écoute, je suis jamais allé à Austin, mais j'aime bien visiter Austin avec Linklater ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, j'aime bien ce côté-là. Et pourquoi on pourrait pas le faire dans un endroit, bien sûr, en théorie, moins intéressant. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est de prendre un truc un peu anonyme et d'en faire quelque chose comme si c'était... Ah ouais, c'est cool, en fait. Là, tu vois, j'aime bien ce truc. En fait, ce qui est étonnant avec ce truc, c'est que, en fait, en réalité, tu souffres vachement des RER, des galères de temps de transport. Et en même temps, bah, je suis amoureux de mon tronçon, de mes arrêts de bus, alors que j'ai passé tellement de temps à m'ennuyer. Parfois, je me dis, c'est comme une espèce de syndrome de Stockholm, un peu bizarre, où tu te mets à fétichiser un arrêt de bus, où tu as passé tellement d'heures et d'heures et d'heures à t'ennuyer. Et je sais pas, il y a une forme de poésie dedans, je trouve, en tout cas, qui me touche, moi. J'ai réussi à transformer cette galère imposée par les conditions de transport en quelque chose d'un peu... Il y a un truc de spleen, hein, aussi. Le spleen, c'est beau, aussi. Comme disait Victor Hugo, la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Quoi ?
T'as sublimé.
J'ai sublimé tout ça, ouais.
Et surtout, ouais. Elles sont toutes pareilles. Elles sont destinées, clairement, à pas être habitées la journée.
Oui. Bah ouais, clairement.
Et pas être marquées non plus.
Les gens qui... Enfin, mes parents, pour le coup, ils partaient le matin à 6h et ils rentraient à 20h. Et en fait, pendant toute la semaine, il ne vivait pas dans ces villages, ces villes et tout ça.
Mais tu as trop raison de dire ça, parce que du coup, la première image du film, c'est un gars qui est la journée dans le pavillon, dans la baignoire, tout habillé. Il y a une forme d'anomalie totale là-dedans, quoi. Et je pense que c'est vraiment ça le point de départ du film. Ouais. C'est que ces pavillons-là, ils ne sont pas censés être habités la journée.
Non, ouais.
Mais ouais, bah écoute, ça me fait plaisir que tu dis ça. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose de presque générationnel. Je sais que j'en avais parlé. Le Covid a accentué plein de mécanismes, mais qui étaient déjà, je pense, en route. Et les générations après, parce que moi, du coup, maintenant j'ai 30 ans, et même les plus jeunes que moi, c'est encore pire, hein, je crois. Donc il y a vraiment. Je pense qu'il y a un enjeu de santé mentale, mais qui est un peu quand même pris aussi. On en parle de plus en plus, même dans les films aussi. Donc je pense que c'est bien tout ça, non?
Ça dit vraiment quelque chose
un peu plus.
Du libéralisme. Enfin,
bah oui, clairement, c'est ça, oui.
C'est ça qui est super.
Bah, tu vois, pour moi.
Le... Un peu fun,
ouais, ouais, grave. Bah, le libéralisme, tu vois, c'est le libéralisme amoureux, le libéralisme du travail, économique, enfin, tout ça, tu vois. C'est... Ouais, j'avais envie de dépeindre un peu ce monde désincarné des applications. On est comme des espèces de marchandises qui s'entrechoquent, qui en fait sont plus du tout humaines, quoi.
Mais tout sans être vraiment non plus déprimant.
Non,
sans
voilà. Être enfin, je veux dire, je trouve ça intéressant de faire un truc triste ou assez dur, mais qui soit en même temps fun. Et je trouve ça, d'une certaine façon, je me dis, c'est comme il disait l'autre, là, mettre du miel sur la potion, là, tu sais, c'est genre, c'est pas Lucrèce ou un mec comme ça, il dit ça. Tu sais, c'est le truc, genre, enfin, tu sais, en gros, t'amuses, mais pour instruire en même temps, là. Ou je sais pas, Voltaire, il disait des trucs comme ça, non? Oui, mais oui. J'aime bien ce truc-là, je trouve ça même parfois un peu plus, pas sournois, c'est pas le bon terme, mais il y a un truc que je trouve efficace aussi, que ce soit en filigrane, que ce soit à l'air de rien, à la fin je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que ça racontait vraiment? Tu prends plein de blagues, tu rigoles. Par exemple, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout les mêmes opinions politiques que moi, qui vont, je le sais en fait, tu vois, j'ai discuté avec des gens, qui aiment bien le film, qui trouvent ça rigolo, et en fait ils voient une vision du monde qui forcément les fait un peu penser le truc et se dire attends ouais effectivement il y a des blagues mais quand même ils vont pas tous très bien, il y a plein de trucs injustes dans le film et je trouve ça intéressant. De toute façon pour moi les films ils doivent être politiques, encore plus peut-être les comédies. Je trouve que la comédie c'est vraiment un instrument génial pour parler du monde, le critiquer, en rigoler à chaque fois. C'est enfin, moi je trouve ça, et je trouverais ça aujourd'hui dans l'état actuel du monde, et moi ma génération à moi, je trouverais ça vraiment hyper lâche de faire un film qui soit complètement déconnecté de toute préoccupation, qui dise rien, qui n'est pas de parti pris ou quoi. Même si le parti pris, je pense, là, on peut aussi grave regarder le film et se dire, ah ben non, il n'y a aucune, c'est presque apolitique, tu vois. Parce que j'essaye de travailler ce truc, ce pas de côté, ce décalage, et j'espère m'améliorer dans ça, dans si je peux faire d'autres projets à l'avenir. C'est vrai que j'essaie d'imbriquer les deux pour pas qu'il y ait de trop grosses ruptures, notamment dans les niveaux de langage. Parce que même quand on a des discussions un peu plus même profondes ou sentimentales, c'est toujours sur un niveau de langage qui reste. Par exemple, moi, j'aimais bien, c'est de dire des trucs poétiques, mais en disant des mots grossiers, quoi. Ouais. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, qu'il y a dans Les Beaux Gosses, qu'il y a dans Super Grave, moi je trouve. Vous avez vu Super Grave, ouais, peut-être, de Greg Mottola. Bah, je trouve que c'est un film magnifique sur la sortie de l'adolescence, un peu comme Stand By Me en fait, mais quelques années plus tard. Ouais, et en fait, ces deux gars qui font que de s'insulter tout le temps, mais en fait, qui sont hyper, hyper tendres l'un avec l'autre, et qui n'arrivent pas à l'exprimer autrement qu'en se disant ouais, c'est ma bite ou des trucs comme ça, quoi. Et en fait, l'extrême grossièreté crée une grande poésie, une grande sensibilité. Moi, je trouve ça trop beau, ça. Alors, on n'est pas à ce niveau-là non plus, mais le truc de chier du cœur, par exemple, tu vois, j'aime bien, parce que, en plus, c'est une leçon un peu. Moi, je pense que vraiment, que moi, j'ai appris durement, qu'avec mes potes, on a du mal à. Et j'aime bien une expression comme ça, tu te dis, ah, c'est super vulgaire, mais ça dit quelque chose de. En fait, d'assez touchant, quoi. En gros, j'essaie de faire ça. Hein. C'est ce que j'essaie de faire, je sais pas si j'ai. La musique. Ben justement, moi j'avais envie d'avoir un peu des thèmes à la Vladimir Kosma, quoi, comme c'est comme les années 70, j'aime beaucoup. Quelque chose d'un peu entêtant, qu'on puisse y flotter, c'est important pour moi. Après, j'ai travaillé avec un garçon qui a lui eu pas mal de projets avec plutôt la French Touch. J'ai un accent horrible, la French Touch. Il a joué avec Phoenix, il a joué avec des groupes comme R. Lui-même, il avait un groupe qui s'appelait Housse de Raquette. Et donc, il avait un peu ces sonorités-là, un peu éthérées. Il me parlait aussi beaucoup d'un chanteur canadien qui s'appelle Mac DeMarco. Il avait ça comme référence. Il me disait « layback », le gain en décalage, un petit peu mou, un petit peu nonchalant. Donc, c'est la collision de ces différentes influences. Après, moi, j'aime beaucoup les musiques des jeux vidéo japonais, des Nintendo, ou des films de Sakamoto, de Hisaishi, des films de Miyazaki. Donc ça fait des trucs qui ont rien à voir a priori, et puis je trouve qu'il arrive à trouver parfois un équilibre. Peut-être que le côté japonais, il était beaucoup moins là sur ce film-là. J'en parlais plus sur Grand Paris, mon film d'avant. Là, c'était peut-être un peu entre Mac DeMarco et Cosma et quelque chose comme ça. Je trouve qu'il a fait une bande-son qui a beaucoup de personnalité, qui épouse bien les différents registres du film, qui lui ressemble vachement et qui en même temps apporte quelque chose au film que je n'avais pas forcément imaginé à l'écriture. Et ça, c'est agréable pour moi aussi d'être surpris, de me dire « Ah, ça peut aussi être ça, c'est peut-être mieux que ce que je pensais en fait, même moi dans ma tête. » Ça, c'est assez agréable en général, parce que j'ai ce truc très contrôle fric, mais du coup, quand c'est dépassé par des propositions qui sont encore mieux que... Enfin, j'adore, je suis pas du tout le genre de dire ah non, 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 c'est comme j'ai pensé. J'adore au contraire que ce soit mieux que ce que j'avais pensé. C'est un cadeau de Noël, quoi, le truc. J'avais fini le tournage.
D'accord.
Il m'a envoyé quelques petits trucs. Je me disais, ah ouais, c'est pas mal, il y a des choses, des pistes qui sont intéressantes. Et puis après, on lui envoie des séquences. Au début, il me faisait un peu des thèmes un petit peu pop rock dans tous les sens. Et là, je vais avoir besoin, non, justement, pas des thèmes, des petits morceaux. Là, je dis, j'ai besoin d'un thème et que le thème ponctue le film. Après, j'ai une version de montage où il y a 20 fois le thème. Et on se dit, non, mais c'est horrible. Il faut en retirer, il faut faire des variations, il faut avoir d'autres morceaux, il faut un peu varier. Mais trouver quand même une cohérence. Et voilà, on bosse, on fait des allers-retours, on regarde le film, on se dit, ah tiens là, c'est un long, long travail. Moi, je suis plutôt rapide quand j'écris. Sur le tournage, on est assez efficace, mais au montage, je suis très long, quoi. Je sais pas pourquoi. Là, on a mis 20 semaines à monter le film, mais franchement, on aurait eu du mal à le faire en moins. J'ai besoin d'essayer plein de choses, j'ai besoin que ça infuse pendant longtemps. Hyper long. Ouais.
Et combien de semaines de tournage ?
C'était 8 semaines, ah, ce qui est pas mal aussi. Hein. Parce que Grand Paris, c'était 3 semaines. Quoi. Donc là, on a eu. Bah oui, en même temps, c'est ça, hein, c'est vrai. Hein. Ouais. Puis on fait des plans, et en fait, les plans, ils sont assez longs à caler en général, parce que j'aime bien que chaque plan soit comme une case de BD, donc il faut vraiment que la position soit comme ça. Il n'y a pas de caméra qui bouge ou quoi, c'est vraiment tout est fixé, les positions des personnages, c'est assez rigide en fait. Bombs, walk marathons, and take on whatever together.
C'était sur la feuille de route.
Ouais. C'est imposé par le
passé. Vous laissez démarrer.